la parole. On va prier tout de suite pour commencer. Seigneur, nous voulons te remercier, te rendre grâce, Seigneur, parce que nous savons que tu es présent au milieu de nous ce matin. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton amour que tu as déversé dans chacune de nos vies. Nous te remercions aussi parce que, Seigneur, tu as des projets merveilleux pour nous, des projets de bonheur et non pas des projets de malheur. Et, Seigneur, nous voulons te faire confiance en toutes choses. Et ce matin, Seigneur, tu connais les besoins de chacun. Et je te prie, Seigneur, de vraiment répondre à tous ces besoins afin que nous puissions sortir de ce lieu avec la certitude que tu nous auras visités tous et chacun et que nous aurons reçu la portion dont nous avions besoin pour débuter et poursuivre cette semaine qui s'annonce devant nous. Et tout cela, c'est dans le beau nom de Jésus que nous te prions. Et le peuple de Dieu dit Amen. Voici une parole pour ceux qui sont portés à s'inquiéter facilement. Je sais qu'il est possible que ceci ne s'applique pas nécessairement à vous tous dans cette salle ce matin, mais vous pourrez alors transmettre ce message à quelqu'un d'autre, que vous connaissez qui en a besoin. Et en fait, si nous voulons être honnêtes, nous nous inquiétons souvent trop pour rien, alors que dans ce passage que nous allons examiner ce matin, ensemble, le Seigneur Jésus nous dit que nous ne devrions pas nous inquiéter du tout. Alors, tourne avec moi dans Matthieu, chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 24. Matthieu, chapitre 6, verset 24 et suivant. Ces paroles sont de celles de Jésus, non pas d'un spécialiste quelconque, donc on va en prendre considération. Voici ce qu'il dit à partir du verset 24. « Personne ne peut servir deux maîtres. Il haïra l'un et aimera l'autre. Il sera fidèle à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. En d'autres mots, n'ayez pas de pensée qui pourrait vous rendre anxieux. Ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet de vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture et le corps, plus important que les vêtements, n'est-ce pas? Regardez les oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent pas de récolte dans des greniers, mais votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux que l'une de ses fleurs. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui se trouve aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu, ne vous habillera-t-il pas à plus forte raison vous-même? Comme votre foi est petite. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la vie juste que Dieu demande, et Dieu vous accordera tout le reste. Ou toutes ces choses vous seront données, dans une autre version, où Dieu vous accordera toutes ces choses. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. La peine qui se présente chaque jour suffit pour la journée. Nous savons tous que nous ne devrions pas nous inquiéter, mais est-ce que nous savons pourquoi nous nous inquiétons et quelle est la cause de nos inquiétudes? La Bible nous rappelle que Dieu est en contrôle et qu'il connaît nos besoins. Dans ce passage, Jésus ici nous donne la meilleure exhortation possible sur l'inquiétude. Je pense que c'est un des meilleurs enseignements qu'on peut trouver dans la parole sur l'inquiétude. Et il y a cinq domaines que Jésus va énumérer ici, cinq domaines dont nous sommes portés en tant qu'êtres humains à nous inquiéter. Le premier domaine, c'est le domaine de l'argent, le verset 24. Lorsque vous vous inquiétez à propos de l'argent, le danger, c'est de chercher à faire ou amasser le plus d'argent possible au point où votre Dieu, c'est l'argent et non pas Dieu qui vous a sauvé. Par mon expérience de vie, je peux dire une chose, plus les gens ont de l'argent, plus ils veulent avoir de l'argent. Et plus il y a de l'argent dans leur compte, plus ils sont attachés à l'argent. Et ce sont souvent les plus radins. Ce sont souvent les plus radins. Alors que vous voyez des gens qui vivent vraiment à la limite de leurs besoins à la fin du mois et qui sont généreux, qui donnent, qui viennent en aide aux autres financièrement, ainsi de suite. Et Jésus dit que non seulement pour l'être humain, mais aussi pour le chrétien, Dieu qui nous a sauvés ne doit pas occuper la deuxième place, mais il doit occuper toujours la première place. Et un des dangers, c'est souvent l'argent. Le deuxième domaine que Jésus énumère ici, c'est la nourriture. Il parle de la nourriture, verset 25. Et il y a une merveilleuse logique dans l'enseignement ici de Jésus. Le point ici est le suivant. Quel fermier nourrirait ses poules et laisserait mourir de faim ses propres enfants? C'est intéressant, non? Quel fermier nourrirait ses poules et laisserait mourir de faim ses propres enfants? Si Dieu prend soin de ces milliers d'oiseaux, nous dit Jésus-Christ, qui volent dans le ciel, lui qui est votre Père céleste ne prendra-t-il pas soin de vous? Dieu donne l'ordre. J'aimerais vous donner juste un exemple. Dans la Bible nous dit que l'Ancien Testament nous a été donné à titre d'exemple. Dans 1 Roi chapitre 17, les versets 1 à 6, on a un exemple extraordinaire, là, comment Dieu peut pourvoir à nos besoins. Il y a une sécheresse, et c'est le prophète Élie. Et Dieu dit ceci à Élie, « Les corbeaux vont apporter de la viande et du pain matin et soir. » C'est incroyable, hein? C'est incroyable, et pourtant dans l'Ancien Testament, les corbeaux sont des animaux impurs, des oiseaux impurs. Et Dieu dit à Élie, « Écoute, il n'y a rien autour de toi à manger. » Tu auras de l'eau, tu auras du pain, tu auras de la viande, parce que moi, le Créateur, je vais donner ordre aux corbeaux de te nourrir. Frères et sœurs, quand on se rappelle cette histoire, est-ce que vous pensez que Dieu est encore capable aujourd'hui de nourrir ses enfants, peu importe la situation que l'on vit? On a tellement de témoignages de foi de gens qui ont prêché devant des assiettes vides à des repas, qui ont remercié Dieu pour ce qu'il leur avait donné, et on a frappé à la porte avec des courses d'épicerie. Et les gens, ils tombaient de haut parce qu'ils ne savaient pas d'où ça venait. Mais le Seigneur avait déjà répondu à leur prière avant qu'ils prient. On a un Dieu qui est illimité, dont rien n'est impossible, frères et sœurs. Mais on est chrétien, mais aussi notre nature humaine qui cherche toujours à faire en sorte de nous amener à compter sur nos propres forces plutôt que sur les forces de Dieu. Et c'est là souvent qu'on commence à s'inquiéter parce que par nos propres forces, si Dieu n'est pas derrière nous, eh bien, on n'est pas capable de répondre à tous les besoins qui sont devant nous dans une journée. On pense à la veuve de Sarepta aussi. Hein? Son bocal a été rempli, ne se vidait pas tant aussi longtemps que la famine et la sécheresse n'avaient terminé. Troisième domaine que le Seigneur Jésus nous donne, c'est au verset 27. Il nous parle de notre corps. Regardez au verset 27. « Qui de vous, par ses inquiétudes, parvient à prolonger un peu la durée de la vie? » Pensez non seulement à ce que les soucis de la vie peuvent nous coûter, mais c'est aux ravages qu'ils causent dans notre vie. Il y a combien de gens qui prennent des médicaments parce qu'ils sont toujours en train de s'inquiéter, ils sont toujours en train de se tracasser? Je connais une femme qui avait tellement peur de mourir qu'elle n'était pas capable de dormir le soir. Parce qu'elle ne savait pas où elle irait si elle mourait. Elle avait peur, mais elle était cernée jusqu'ici. Et elle avait besoin de médicaments pour s'endormir le soir, sinon elle était incapable, elle luttait intérieurement. Elle était en train de s'abîmer la santé. Pourquoi le Seigneur nous demande-t-il de ne pas nous inquiéter? Parce que le prix à payer, c'est souvent notre santé. L'auteur des Proverbes, Proverbes chapitre 12, verset 25, dit ceci, « Un cœur soucieux déprime un homme. » Bien sûr, une femme. Hein? « Un cœur soucieux déprime un homme et déprime une femme. » Le quatrième domaine, le vêtement, verset 28 à 31. Jésus dit, ne vous inquiétez pas concernant ce que vous allez porter. Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent, ils ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Frères et sœurs, Dieu se soucie de tous les petits détails de notre vie. Le problème, ce n'est pas de s'inquiéter quelle sorte de vêtements qu'on va porter. Le problème, c'est d'avoir suffisamment d'argent pour être en mesure de suivre la mode. C'est ça le problème, souvent, chez la plupart des gens. Les gens s'inquiètent de ne pas avoir suffisamment d'argent pour être capable de suivre la mode. Et à suivre la mode, ça coûte cher. On sait que les vêtements qui sortent à chaque saison, si on n'attend pas, eh bien, à la fin de chaque saison 50-70%, eh bien, on sait que ça coûte énormément cher. Et les gens s'inquiètent de ne pas suivre la mode. Mais le Seigneur ne nous demande pas de suivre la mode. Il nous dit, écoute, ne te préoccupe pas. Dieu sait de quoi tu as besoin. Il sait quelle sorte de vêtements tu dois porter en tant que frère, en tant que sœur chrétienne. Et Dieu va pourvoir à tes besoins à ce niveau-là. Mais si tu veux suivre la mode, tu vas t'essouffler. Tu vas vider ton compte de banque. Tu vas peut-être avoir besoin d'un deuxième emploi. Moi, en tout cas, en tant que pasteur, je n'ai pas les moyens de me payer des baskets à 150 €, d'une paire de jeans à 150 €. Vous avez remarqué, deux items, ça fait 300 €, quoi. C'est énorme, quelqu'un qui veut suivre la mode. Avoir un T-shirt juste parce que c'est écrit une marque ici, ça peut vous coûter 75 €, alors que quand il n'y a pas de marque, ça vous coûte 7 €, quoi. Au Québec, j'ai acheté une paire de souliers parce qu'on n'avait pas encore mis les tempes d'une marque. Je les ai payés 10 €, et quand on a mis la marque dedans, c'était 110 €. Mais les gens s'essoufflent à vouloir suivre la mode. Le Seigneur, il nous demande, il nous parle à travers l'apôtre Pierre et à d'autres endroits aussi, que le chrétien, il doit être habillé sobrement. Il ne nous demande pas de suivre la mode, il nous demande d'être habillé sobrement. Et c'est à nous de savoir ce que le mot « sobrement » veut dire. Le cinquième domaine, c'est le futur, verset 34. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. » On va s'arrêter un petit peu sur ce passage, sur ce verset. « Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, pardon, car le lendemain aura soin de lui-même. La peine qui se présente chaque jour suffit pour la journée. » Je trouve bien en français, je la trouve bonne en français courant. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. La peine qui se présente chaque jour suffit pour la journée. » Je lisais, frères et sœurs, certaines lectures concernant l'inquiétude, et je suis tombé sur certaines statistiques. Je ne peux pas vous garantir si elles sont exactes ou non, mais je peux vous dire qu'elles sont fort intéressantes. Écoutez bien ce qui suit. 40% des choses pour lesquelles nous nous inquiétons ne surviendront jamais dans nos vies. C'est extraordinaire, hein? 30% font partie du passé et nous ne pouvons rien y changer puisqu'elles sont déjà arrivées. 12% de ces choses pour lesquelles nous nous inquiétons concernent la critique et le jugement. La grande majorité de ces critiques et de ces jugements sont pour la plupart non fondés. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont été créés pour critiquer les gens et pour porter des jugements sur tout le monde. Et ça nous affecte. C'est vrai que ça nous affecte, surtout quand on sait que ce n'est pas vrai. Mais il donne un pourcentage ici qui est extraordinaire. Et souvent, ça blesse des gens, mais profondément, quoi. Les gens qui ont une mauvaise image de soi, ils vont traîner ça pendant des semaines et des mois, au prix d'aller voir un psychologue, au prix d'aller voir un psychiatre, quoi. Parce qu'une parole, une critique, un jugement a été porté contre eux alors que c'était sans fondement. Et on dit ici, bien que parmi ces critiques, la plupart sont non fondées, les jugements sont non fondés. Il y a des gens qui ont tellement de mauvaise image d'eux-mêmes qui pensent qu'ils s'élèvent en abaissant les autres, quoi. C'est souvent ça qu'on vit dans notre société. Et on n'est pas censé trouver ça dans l'Église. 10% de ce pourquoi nous nous inquiétons concerne notre santé. Et le stress que provoque l'inquiétude ne fait qu'empirer les choses. 8% de nos inquiétudes concernent de vrais problèmes dont nous devrons faire face. 8% sur 100%, c'est incroyable. Combien de gens perdent du temps dans leur vie à s'inquiéter, à se rendre malade? Finalement, ce que l'on peut dire, c'est qu'il est inutile de s'inquiéter parce que la plupart du temps, ce pourquoi nous nous inquiétons n'arrivera jamais. Dieu permet donc que nous vivions des choses à chaque jour pour nous amener à nous tourner vers lui et obtenir la force dont nous avons besoin pour surmonter toute situation difficile qui surviendront dans nos vies. Dieu ne nous donne jamais aujourd'hui la force pour surmonter les problèmes qui nous attendent demain. Ça, c'est important. Il y a des gens lundi qui se préoccupent déjà de ce qui va leur arriver mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Dieu nous donne la force pour traverser les épreuves qui nous attendent aujourd'hui. Il nous la donne aujourd'hui, non pas demain. Les épreuves de demain, Dieu ne nous la donne pas aujourd'hui, les forces nécessaires. À chaque jour suffit sa peine, dit Jésus. Tu rencontres des gens le dimanche après-midi, tu vois, ça va. Oh, oh, parle-moi pas, moi, tu sais pas ce qui m'attend vendredi. Hey, vendredi, as-tu pensé que tu pourrais t'enterrer? À chaque jour suffit sa peine. Le raisonnement de Jésus, l'enseignement de Jésus, il est magnifique, quoi. Magnifique. Arrête de te bourrer de vitamines pour vivre plus longtemps. Le Seigneur, il a déjà prévu la date que tu vas mourir. Hey, Amen. C'est vrai. Et ça fait partie de la stratégie de l'ennemi, ça. Parce que quand nous nous inquiétons, frères et sœurs, nous oublions les promesses qui sont contenues dans la parole de Dieu pour ceux qui appartiennent au Seigneur. Et ça fait partie du combat spirituel dans lequel nous vivons, que nous vivons quotidien. Dieu nous accorde la force pour surmonter les problèmes que nous devrons affronter aujourd'hui. Jésus dit, la peine qui se présente chaque jour suffit pour la journée. Les problèmes que provoque l'inquiétude, le fait de s'inquiéter pour tout et pour rien, peut raccourcir notre durée de vie parce que cela provoque des maladies psychosomatiques, par exemple certains cancers. Et le fait de s'inquiéter peut vous affecter psychologiquement, tout comme un petit grain de sable fait lorsqu'il s'incruste dans une mécanique. Le moteur commence à tourner au ralenti et finit par avoir de sérieux problèmes de fonctionnement, mais c'est la même chose pour les êtres humains. Le petit grain de sable, c'est l'inquiétude. Ça peut être une critique, ça peut être un jugement. C'est l'inquiétude. On s'inquiète pour tout et pour rien. Non seulement le fait de s'inquiéter est néfaste pour nous, mais il est aussi néfaste pour les autres. Appréciez-vous d'être en présence de gens qui sont tout le temps en train de s'inquiéter pour tout et pour rien. La pièce est éclairée. Quand ils rentrent, la pièce, vous avez l'impression que les lumières diminuent. Et quand ils ressortent, bien, vous avez l'impression que la lumière, écoute, l'éclairage reprend sa pleine capacité. Je ne dis pas cela pour être méchant envers ces personnes, parce que je pense que ces gens ont besoin qu'on leur manifeste beaucoup de compassion et beaucoup d'amour. S'inquiéter n'est pas seulement néfaste pour notre vie, mais il l'est aussi pour les autres, frères et sœurs. L'inquiétude envoie simplement le message suivant à notre Père Céleste. Père, c'est trop gros pour toi. Tu ne pourras pas gérer cette situation qui m'arrive. Si j'appartiens à Dieu, je n'ai pas à m'inquiéter du lendemain. Je dois me rappeler que Dieu tient bien la situation entre ses mains et que rien ne lui échappe, frères et sœurs. Voilà pourquoi Jésus dit ici au verset 30 et 32, « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne vous dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? » Écoutez la suite, frères et sœurs, regardez la suite du verset. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. C'est une claque, ça, hein? C'est une méchante claque, hein? À chaque fois que vous vous inquiétez, vous agissez comme les païens. C'est une gifle, hein? Moi, je l'ai pris, hein? Il y en a qui peuvent en prendre une, deux, trois, quatre, mais c'est une gifle, quoi. Et il dit pourquoi, hein? Le problème, c'est votre foi. C'est pour ça que vous vous inquiétez. Gens de peu de foi. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Lorsque vous vous inquiétez, on agit comme les non-croyants. Se faire du souci, s'inquiéter, c'est païen. Parce que c'est comme ça que les gens du monde fonctionnent. Nous parlons ici de choses pour lesquelles nous nous inquiétons. Nous parlons de ces choses qui nous font du mal et qui font du mal aux autres. Lorsque nous nous inquiétons, c'est aussi une insulte à Dieu et cela l'attriste profondément de nous voir nous inquiéter, nous qui nous disons ses enfants. Nous avons vu que Jésus a dit que l'inquiétude est la marque de ceux qui ont peu de foi. Vous vous dites peut-être, eh bien, pasteur, je suis maintenant convaincu, pouvez-vous m'aider? Dieu peut vous aider, il le fera à travers sa parole et j'aimerais regarder ça avec vous rapidement ce matin. Permettez-moi de vous donner quelques solutions. Ben, je ne vais pas vous laisser comme ça, hein, parce que vous allez sortir inquiet, quoi. Hein. Donc, je vais quand même vous donner les solutions que le Seigneur nous donne, quoi. La première solution, c'est au verset 32. Se rappeler que Dieu est votre Père. Se rappeler que Dieu est votre Père, frères et sœurs. Regardez ce qu'il est écrit au verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père céleste, qui vit depuis toute éternité, sait de quoi vous avez besoin. Je vous invite à voir Dieu comme étant votre Père, votre Père céleste. Frères et sœurs, ne vous est-il jamais venu à l'esprit que votre Père céleste a la responsabilité de prendre soin de vous? Lorsque quelqu'un donne naissance à un enfant dans ce monde, n'a-t-il pas l'obligation envers cet enfant de prendre soin de lui? Dieu ne nous a pas créés, ne nous a pas sauvés pour ensuite nous abandonner, non. Lui qui n'a point épargné son propre fils, dit l'apôtre Paul, mais qu'il l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si Dieu vous a suffisamment aimé pour vous envoyer son Fils mourir pour vous, vous n'avez plus à douter de son amour pour vous. Nous nous inquiétons parce que nous oublions qui est Dieu. Rappelez-vous que Dieu est votre Père. Ça, c'est la première solution que Jésus nous donne ici. Évitez de vous inquiéter comme les gens du monde le font. Dieu est votre Père. Amen. Et frères et sœurs, nous, moi je vous regarde, je ne vois pas ce qu'il y a en arrière. J'ai la difficulté à distinguer ce qu'il y a sur les côtés. Mais Dieu, il a des yeux partout, partout, partout. Il voit toutes choses. Il n'y a même pas une poussière dans l'univers, sur la terre, qui lui échappe. Dieu sait exactement de ce dont vous avez besoin. Dieu vous voit jour après jour. Il vous voit 24 heures par jour. Il n'y a rien qui lui échappe. Vous êtes dans Matthieu chapitre 6. Tournez maintenant dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, versets 29 à 31. Ne vend-on pas deux moineaux, deux passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un par terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez beaucoup plus que ces passereaux. Frères et sœurs, s'il n'y a pas un moineau qui tombe à terre sans que Dieu ne le sache, et si Dieu assiste aux funérailles de chaque moineau, et c'est le cas, n'avez-vous pas la certitude que celui qui est votre Père céleste ne prendra pas soin de vous? Frères et sœurs, Dieu vous aime, d'un amour éternel. C'est ce qu'il dit à travers Jérémie. Voici maintenant la deuxième solution face à vos inquiétudes. Verset 33. S'efforcer de vivre comme Dieu le demande. Regardez ce que Jésus dit au verset 33. Cherchez ou préoccupez-vous premièrement du royaume de Dieu et de la vie juste que Dieu demande, et Dieu vous accordera tout le reste. Maintenant, frères et sœurs, c'est quoi tout le reste? Ce sont les choses pour lesquelles nous sommes portés à nous inquiéter. L'argent, la nourriture, notre corps, la durée de vie, le vêtement et le futur. Le Seigneur, il dit, écoute, vis selon les valeurs pour lesquelles tu as été créé, vis selon les valeurs du royaume de Dieu, et tout le reste te sera donné. C'est une promesse que je te fais. C'est une promesse ici, hein? C'est une promesse, hein? Il y a une condition à chaque promesse, mais ici, il donne la condition. Préoccupe-toi de vivre comme un citoyen du royaume des cieux, et tout le reste, Dieu va te le donner. Tout le reste. C'est ce que le psalmiste dit dans le psaume 37, hein? Fais de l'éternel tes délices, Hélène, et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est le pendant de ce que David dit dans le psaume 37. Fais de l'éternel tes délices, et il te donnera tout ce que ton cœur désire. J'ai déjà entendu des gens remettre en question Matthieu chapitre 6, verset 33, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui mettait en pratique ce même verset manquer de quoi que ce soit dans sa vie. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera tout le reste. Il y a des gens qui ont peur de perdre leur emploi. En tant que chrétien, si tu perds ton emploi ou arrêtes de t'accrocher à ton emploi, est-ce que tu as réalisé que Dieu peut avoir quelque chose de meilleur pour toi ailleurs? Et que si tu t'accroches à ton emploi et si tu veux par tes propres moyens le garder ton emploi, tu perds la bénédiction que Dieu en réserve pour toi ailleurs. Et ça, c'est dans tous les domaines de notre vie. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera tout le reste. Est-ce que vous savez ce à quoi correspond l'inquiétude et la peur? L'inquiétude est tout simplement un symptôme qui vous avertit que vous n'êtes pas centré, n'êtes pas concentré sur les bonnes choses, mais que vous avez les yeux fixés sur les mauvaises. Vous craignez de ne pas avoir assez d'argent, vous craignez de manquer de nourriture, de tomber malade, de mourir avant votre temps, de ne pas pouvoir vous habiller comme vous le voulez. C'est ce que vous n'avez pas les yeux fixés sur le Père céleste. Car moi, le Seigneur, tournez dans Jérémie chapitre 29, versets 1 à 13. Je vais le lire en français courant, hein? Il est bien dit ce verset. Jérémie chapitre 29, versets 11 à 13. Jean-François, pendant que les gens cherchent, je veux préparer le cantique, chercher d'abord le royaume pour la fin. Merci. Jérémie, chapitre 29, versets 11 à 13. Regardez ce qu'il est écrit. « Car moi, le Seigneur, je sais quel projet j'ai formé pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. » Et l'avenir à espérer, c'est l'espérance vivante dont Paul parle, c'est-à-dire la résurrection des morts à la fin des temps. Et maintenant, il nous donne un avenir aussi à espérer, parce qu'on est sous sa coupole. « Si vous venez alors m'appeler, me prier, je vous écouterai. Si vous vous tournez vers moi, vous me retrouverez. Moi, le Seigneur, je vous le déclare. Si vous me recherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous et je changerai votre sort. » Recherchons premièrement le royaume de Dieu et la vie juste qu'il demande, et Dieu nous accordera tout le reste. Comment faire en sorte, frères et sœurs, de ne pas s'inquiéter? Se rappeler que Dieu est votre Père. Se rappeler que Dieu est notre Père. Verset 32. C'est lui qui vous a amené dans ce monde et il sait mieux que quiconque ce dont vous avez besoin. David dit dans le psaume 37, verset 25, « J'ai été jeune et me voilà vieux. Jamais je n'ai point vu le juste abandonné, ni ses enfants réduits à mendier leur pain. » Ah bien, s'il y en a bien un qui a souffert dans sa vie, qui a dû se sauver, qui n'a pas nécessairement toujours habité dans une belle maison, c'est bien David, parce qu'une grande partie de sa vie, le roi Saül a couru après pour l'assassiner, pour le tuer. David a dormi dans des grottes. David a dû fuir. Et il n'a jamais, jamais manqué. Moi, je trouve que c'est un beau verset, ça, le psaume 37, verset 5. J'ai été jeune, j'ai été vieux. Et me voilà maintenant, je peux dire que jamais j'ai vu le juste abandonné, ni même ses enfants être réduits à demander, à quêter, à mendier leur nourriture pour vivre. Cela ne signifie pas que ces choses ne sont pas importantes, mais Dieu sait ce dont nous avons besoin. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas prendre soin de notre corps, absolument pas, quoi. Mais il ne faut pas abuser non plus de maintenir une forme extraordinaire. Il y en a, écoutez, qui sont rendus, qui prennent des stéroïdes anabolisants pour avoir un bon corps, et ainsi de suite. Il y en a qui se font remonter tout le corps au complet pour rester jeune. Ce n'est pas ce que le Seigneur est en train de dire ici, quoi. Il dit qu'un minimum à faire pour maintenir une bonne santé physique, il y a une façon aussi de se nourrir convenablement. Mais pour le reste, eh bien, on doit faire confiance à Dieu. Ces choses-là ne nous manqueront jamais. Troisième solution pour éviter de s'inquiéter, verset 34 dans le Matthieu chapitre 6. Vivre au quotidien et arrêter de penser à ce qui pourrait vous arriver demain. Ce dernier point, frères et sœurs, est d'une importance capitale parce que c'est le point qui freine tout chrétien pour progresser dans sa foi. C'est quelque chose qu'il avait dans sa vie antérieure, c'est quelque chose qui traîne dans sa vie chrétienne. Parce qu'il a été éduqué de la façon suivante, ses parents lui ont dit, écoute, là, tu vas affronter la vie, ne fais confiance à personne, appuie-toi sur tes propres forces pour réussir dans la vie, sinon tu vas connaître l'échec. Et le Seigneur, il nous dit tout le contraire, quoi. Là, c'est terminé, tu ne fais plus confiance à tes propres besoins, tu ne fais plus confiance à tes propres moyens, pardon, tu fais confiance à celui qui t'a sorti du trou dans lequel tu te trouvais, tu me fais confiance. Mais c'est toute une autre façon de voir les choses, quoi. Et c'est la nouvelle naissance qui nous permet de changer notre façon de penser et d'agir dans notre vie chrétienne. Mais il y a des chrétiens qui traînent ça toute leur vie, ça les paralyse. C'est comme, ils marchent avec des béquilles toute leur vie. Ils ont de la difficulté à suivre ce que la parole de Dieu dit. Regardez ce que Jésus dit au verset 34. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain reçoit de lui-même. La peine qui se présente chaque jour suffit pour la journée. » Vous pouvez penser que le diable est la cause de tous vos problèmes, mais rappelez-vous que Dieu est toujours en contrôle de toutes les situations. Il n'y a aucune situation qui lui échappe. Certains jours, il nous envoie le soleil. D'autres jours, il nous envoie la pluie. La pire chose qui pourrait arriver à des gens comme vous et moi, c'est que nous ne rencontrions jamais de problème dans la vie. Amen. Ah, ça ouvre un beau amen sur des problèmes. C'est magnifique, ça. Oui. Frères et sœurs, si on n'avait jamais de problème dans la vie, on ne se tournerait jamais, jamais vers le Seigneur. Jamais. Même en tant que chrétien, quand on vit dans l'abondance, Dieu qui occupait la première place, souvent il est remplacé par autre chose. Et Dieu provoque des épreuves, provoque la maladie, provoque des situations pénibles pour nous ramener devant le trône de la grâce, pour qu'on puisse intercéder, pour qu'on puisse lui demander pardon, parce que c'est vrai qu'il n'a pas occupé la première place toujours dans notre vie, qu'il y avait une autre idole dans notre vie qui a pris sa place. Et là, on recommence, on repart encore sur de nouvelles bases, parce que Dieu, c'est un Dieu gracieux, c'est un Dieu qui nous aime, et il nous prend toujours par la main pour marcher avec nous, jour après jour. Jésus a dit, sachez-le, je serai avec vous tous les jours, et ce, jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs, pourquoi Dieu permet la souffrance dans le monde? Si les gens ne souffraient pas, ils jamais se tourneraient vers Dieu. Hein? Jamais. Hein? Il y a combien de gens qui acceptent le Seigneur quand ils tombent malades? Il y a combien de gens qui acceptent le Seigneur quand tout va mal dans leur vie? C'est encore une grâce que Dieu fait. Hein? La souffrance, c'est encore une grâce, hein? Malgré ce que les gens peuvent penser. Hein? C'est une grâce. Sinon, les gens ne se tourneraient jamais. On est tellement égoïste, hein, en tant qu'être humain que jamais on se tournerait vers Dieu pour aller chercher ce dont nous avons besoin. Dieu permet donc que nous vivions des choses à chaque jour pour nous amener à nous tourner vers lui et obtenir ainsi la grâce et la force dont nous avons besoin pour surmonter toutes les situations difficiles qui surviennent dans nos vies. Dieu ne nous donnera jamais une grâce pour surmonter les problèmes qui nous attendent demain, mais il nous accorde la grâce pour surmonter les problèmes que nous devons affronter aujourd'hui. Jésus dit, la peine qui se présente chaque jour suffit pour la journée. Si vous prenez aujourd'hui sur vous ce qui vous appartient, ce qui appartient demain, pardon, et là je ne parle pas de planifier votre temps, je parle d'inquiétude, de pensée qui vous rend anxieux et des mauvais pressentiments que vous avez, vous empruntez aujourd'hui les problèmes qui vous attendent demain, et cela s'appelle courir après les problèmes. Lorsque vous essayez dès aujourd'hui de régler les problèmes que vous pensez vivre le lendemain, vous allez découvrir, frères et sœurs, que le prix à payer est très élevé. Premièrement, l'inquiétude attire les nuages de demain sur le soleil d'aujourd'hui. Si vous prenez le temps de réfléchir, si vous commencez à vous inquiéter de ce qui peut vous attendre demain concernant des choses que Dieu n'a même pas l'intention de vous faire vivre aujourd'hui, cela va vous empêcher de voir les merveilleuses bénédictions que Dieu veut vous accorder durant la journée. Frères et sœurs, une grande bénédiction ce matin, c'est que vous soyez tous ici. Une grande bénédiction, c'est que je ne connais pas votre bilan, j'ai pas votre bilan de santé, mais vous me paraissez tous en bonne santé, physique et mentale surtout. Tous en bonne santé, quoi. C'est une grâce que Dieu nous accorde. C'est une grâce que Dieu nous accorde. Je pense que dans cette salle ici, il n'y a personne qui manque du nécessaire. C'est une grâce que Dieu nous accorde. C'est une bénédiction que Dieu vous accorde. La Belgique, on vit en crise, je ne vois pas tellement. C'est pas vraiment un pays en crise. Il faudrait peut-être porter nos regards ailleurs pour réaliser que le mot crise ici a une définition peut-être différente de ce que d'autres pays qui sont en crise vivent. Il y a des enfants, il y a des parents qui habitent dans des habitations où ils dorment et qui reçoivent une bombe sur la tête durant la nuit, qui perdent leur mère, qui perdent leurs enfants, des familles qui sont complètement décimées à cause de la guerre. La Belgique est un pays qui vit dans la paix. La Belgique est un pays qui vit dans la démocratie. Et la parole de Dieu nous dit qu'on doit prier pour nos autorités afin justement de pouvoir continuer à vivre en paix, de pouvoir se réunir ensemble dimanche après dimanche. Frères et sœurs, ce sont des bénédictions. Mais si on perd de vue que Dieu est notre Père, vous savez ce qui va arriver avec nos gouvernements, on va commencer à les critiquer. Hein? On paye trop de taxes, on paye trop d'impôts, on paye trop de ci. Ah, le gouvernement est pourri. Et c'est un signe qu'on a perdu de vue qui est notre Père. Le gouvernement, ce n'est pas notre providence, c'est Dieu qui est notre providence. Et si on n'est pas content du gouvernement belge, on a toujours la liberté de changer de pays. Je vais vous donner un pays où vous pouvez aller vivre, vous ne paierez pas d'impôts ni de taxes, c'est en Haïti. Quand vous allez aux toilettes, vous faites 100 mètres dans le bois pour aller aux toilettes, parce qu'on ne paye pas de taxes pour les eaux. Alors, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas de toilettes, il n'y a rien. Quoi. Vous ne payez pas de taxes. Vous n'avez pas de maison comme on a, une belle maison en Belgique, vous dormez dans une case. Ouais. Mais on a perdu de vue que c'est une grâce de vivre en Belgique. C'est une grâce de pouvoir se nourrir comme bon nous semble. Au Venezuela, les gens font maintenant la queue pendant 8 heures pour aller chercher, trouver un pain dans un supermarché pour être capable d'avoir 1 kilo de farine. 8 heures par jour. C'est incroyable. C'est une grâce de vivre en Belgique, frères et sœurs. Et quand on commence à critiquer, c'est parce qu'on a perdu de vue qui est notre soutien. C'est Dieu qui est notre soutien. Amen. Deuxièmement, l'inquiétude pompe nos forces. Lorsque vous vous inquiétez de ce qui peut arriver demain, vos forces de résistance diminuent. Rappelez-vous, Dieu ne nous donne pas la force nécessaire aujourd'hui pour affronter les problèmes de demain. Il est écrit, « Celui qui appartient au Seigneur n'a pas à craindre les méchantes rumeurs. Le cœur assuré, il fait confiance au Seigneur. » Psaume 112, verset 7. Dieu n'a jamais promis que le ciel serait toujours bleu, que notre chemin serait toujours tapissé de fleurs et que tout irait bien dans nos vies. Dieu ne nous a jamais promis cela. Dieu n'a pas promis le soleil sous la pluie dans nos vies, sans la pluie dans nos vies. Dieu n'a pas promis la joie sans la tristesse, ni la paix sans la souffrance. Non, Dieu a promis de nous donner la force dont nous avions besoin pour affronter jour après jour ce qui nous attend. Se tracasser ne fait que saper notre énergie. S'inquiéter, c'est perdre de vue que nous pouvons faire face à toute situation grâce à Jésus-Christ qui nous fortifie, dit l'apôtre Paul. Le psalmiste écrit, « Dieu sait bien de quoi nous sommes faits, d'un peu de poussière, il ne l'oublie pas. Il sait très bien ce que vous pouvez supporter. » Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, 13, Dieu dit à travers l'apôtre Paul qu'il ne nous permet pas de vivre quoi que ce soit qui soit au-delà de nos forces. Et peu importe la situation qu'on vit, Dieu a déjà trouvé le moyen de nous en sortir. C'est extraordinaire. Donc, Dieu n'est pas un cruel, Dieu n'est pas un malade. Si Dieu permet que nous vivions des situations difficiles et qu'il nous a donné déjà le moyen de nous en sortir, c'est pour une bonne raison, c'est de nous amener à vivre, c'est de nous amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 28-29. Je le dis, je le répète souvent, ce pourquoi Dieu a créé un peuple, c'est pour vous amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ, c'est pour refléter la gloire de Jésus, c'est de produire les fruits de l'Esprit, et entre autres l'amour. L'amour, il faut faire attention à comment on le définit, mais Paul le définit très bien dans 1 Corinthiens, il dit l'amour est patient, l'amour est ci, l'amour est ça. Mes frères et sœurs, est-ce que vous réalisez que c'est ce que Dieu veut faire comme travail dans nos vies? C'est extraordinaire. Dieu ne nous doit rien, frères et sœurs, mais parce qu'il nous a recréés en Jésus-Christ, eh bien, il a la responsabilité de pouvoir, il prend la responsabilité de pouvoir à tous nos besoins. Et les promesses sont là, frères et sœurs, peu importe ce qui nous arrive. Troisièmement, et je termine avec cela, prendre la décision de vivre au quotidien, ça c'est, et arrêter de penser à ce qui pourrait vous arriver demain, verset 34. Je remets entre les mains de Dieu ce qui m'attend aujourd'hui, demain, parce que j'ai compris que le lendemain se suffit à lui-même. La peine qui se présente chaque jour suffit pour la journée. Amen. Et des fois, en tant qu'être humain, on dit, c'est un petit peu trop la dose aujourd'hui que Dieu m'envoie. Mais Dieu connaît nos capacités de résistance. Dieu sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Et tout ce qu'on peut lui dire après, quand on a traversé la journée, c'est de le remercier parce qu'on a réalisé, à travers sa parole, qu'il est toujours là, qu'il est présent, que sa présence ne nous fait jamais défaut. Amen. Vous avez ta chance, vous levez. On va chanter « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Et s'il y a une ou deux personnes qui veulent prier, eh bien, vous pourrez le faire après. Et rapidement, eh bien, il y a une réunion de... peut-être même le faire après, hein. c'est pas confidentiel, quoi. C'est simplement pour vous annoncer une nouvelle, donc voilà. Alors, on va chanter comme on chante d'habitude avec les femmes. Quel numéro, Jean-François? 76. Est-ce qu'il y a du café ce matin? personnes, une ou deux personnes prier. Pour terminer ce culte. Recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Et le peuple de Dieu dit...
Amen.
Alors, rapidement, simplement, ça s'adresse aux membres. Vous pouvez vous asseoir rapidement. Hein. Oui, vous pouvez rester. Bon, on ne mobilisera pas toute la troupe pour ça. C'est simplement qu'on doit faire refaire la toiture du presbytère. Donc, on a trois devis. Et dans deux semaines, il y aura une assemblée générale de l'ASBL pour vous soumettre les trois devis. Puis, vous voterez pour savoir lequel devis on accepte. Voilà. Ça va? Alors, on vous invite à descendre au sous-sol pour poursuivre. Vous avez compris ou pas, non? Non?
Okay.
On doit faire réparer la toiture du presbytère. Et bien, ça prend des devis pour ça, quoi. On a fait trois devis, on a trois prix différents. Et ça prend l'acceptation des membres pour pouvoir soumettre ce contrat-là à un entrepreneur. On va soumettre ces contrats-là à un entrepreneur et c'est par nous qui va vous expliquer en détail. Et à ce moment-là, vous devez voter pour qu'on puisse justement faire entreprendre les travaux. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est encore moins compliqué la première fois? Ok, ça va, merci.